Mais ce matin, nous allons regarder un passage qui est peut-être très connu. Pour certains, ce sera un rappel, pour d'autres, une découverte. C'est en Jean chapitre 3. Donc, je vous invite à prendre l'évangile de Jean. Et au chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 10. Et nous allons examiner ensemble une rencontre qu'a eue Jésus avec un homme religieux qui s'appelle Nicodème. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Prions. Notre Père, nous te demandons ta bénédiction ce matin. Sur ta parole que tu as promise qu'elle ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Nous nous cachons derrière toi, nous n'avons aucune puissance par nous-mêmes, si ce n'est, Seigneur, ta parole qui régénère. Et nous te glorifions ce matin ensemble de ce texte, nous te remercions de bien vouloir nous visiter par ta grâce, ton amour et ta bonté. Nous te prions ces choses en ton nom. Amen. Alors, peut-être utiliser le PowerPoint ce matin, peut-être ce sera plus clair. On va essayer. En fait, Jésus a parlé à de nombreuses personnes quand il était sur la terre. Il a parlé à des foules, mais il a parlé aussi à des individus. Ah, il n'y a pas beaucoup d'individus qui ont eu un rendez-vous divin, seul à seul avec le Seigneur. Mais vous savez, il est encore possible d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Êtes-vous né de nouveau? Ce passage ici nous parle de nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau? On raconte l'histoire d'un prédicateur, pasteur, qui a été installé dans une église et qui, pour le premier message, a prêché ce passage au sujet de la nouvelle naissance. Les gens étaient contents, semble-t-il, à l'église. Le dimanche suivant, le prédicateur prend le même message. Il faut naître de nouveau. Les membres commencent à se dire, bon, peut-être il vient d'arriver, il s'installe, il n'a peut-être pas eu le temps de réviser ou d'étudier notre message. Bon, le troisième message, il prêche toujours, il faut naître de nouveau. Le conseil de l'Église se rassemble d'urgence et commence à se poser la question, mais est-ce que notre pasteur n'a qu'un seul message à nous donner? Alors il le convoque et dit, voilà, il semble que vous répétez souvent le même message. Pourquoi? Et le pasteur les regarde et dit, parce que il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il y a des gens qui fréquentent des églises et ils ne sont pas nés de nouveau. Et le pasteur pensait que le premier message dont l'Église avait besoin, c'était celui-ci. Il faut naître de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? On va regarder ensemble ce matin l'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître de nouveau? Qui doit naître de nouveau? C'est ça? Et puis, quand doit-on naître de nouveau? Et nous apporterons ensuite une conclusion après avoir parlé des résultats de la nouvelle naissance. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Eh bien, c'est une grande vérité de la Bible. C'est incontournable. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est une grande vérité de la Bible que tous nous allons mourir. Nous n'avons pas choisi de naître et nous n'avons pas choisi de mourir. Mais c'est un fait qu'un jour nous naissons et puis nous mourrons. Aussi, la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est inéductable. La mort, dans le grec, ça signifie la séparation de l'âme et du corps. Mais l'âme est immortelle et l'âme entre dans l'éternité. Et un jour, chacun d'entre nous, nous allons faire face à face avec Dieu. Vous savez, moi je tremble quand quelqu'un me dit « Vous savez, vous verrez, si Dieu existe, eh bien, quand je mourrai, je le rencontrerai, je lui dirai vraiment ma façon de penser ». Je tremble quand j'entends ça. On n'a pas deux mots à lui dire, c'est Dieu qui va nous parler un jour. Et si vous deviez mourir aujourd'hui, pour quelle raison est-ce que Dieu vous laisserait-il entrer au ciel? L'âme est immortelle et un jour, chacun d'entre nous, nous allons faire face à notre Créateur. Et puis la Bible dit que nous devons naître de nouveau parce que c'est la seule façon d'entrer au ciel. C'est une vie qui vient d'en haut. Beaucoup de religions essayent de nous prouver que si nous faisons assez d'efforts, les témoins de Jéhovah, assez de porte-à-porte, certaines religions, des souffrances, jusqu'à des souffrances extrêmes, j'allais dire le carême, c'est peut-être pas extrême, mais des souffrances que les hommes s'infligent, et des choses à faire pour plaire à Dieu, des offrandes à offrir. Vous savez, l'homme et les mille et une religions qui existent dans le monde essayent toujours d'apporter quelque chose à Dieu pour essayer de gagner l'approbation de Dieu. Eh bien, vous savez, Dieu fait exactement l'inverse. Il y a un philosophe qui disait, je crois que c'était Nietzsche, l'homme a tendance à se faire Dieu, mais lui, Dieu, a tendance à se faire homme. Et il s'est fait homme. Un jour, il est descendu du ciel, il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit ici que cet homme Nicodème, qui était pourtant un chef religieux, n'avait pas compris encore la façon avec laquelle il pouvait entrer au ciel. Vous pouvez avoir une bibliothèque chez vous, vous pouvez avoir des richesses, la santé, merci Seigneur, mais si vous n'êtes pas né d'en haut, s'il n'y a pas une nouvelle naissance qui vient directement du ciel, vous ne pouvez pas entrer au ciel, c'est la condition d'entrer au ciel. Nous vous avons invité ce matin à venir à ce repas concert. Il y a une invitation gratuite. Vous savez, c'est gratuit. On ne va pas vous dire à l'entrée, tiens, mais non, c'est dans le menu. Mais vous savez, Dieu dit que le ciel, c'est gratuit. C'est une bonne nouvelle, cela. Toutes les religions au monde apprennent qu'il faut faire quelque chose. Alors que Dieu dit que nous devons apprendre à croire à ce que lui a déjà fait. Ainsi, il est important de naître de nouveau. Ce que la nouvelle naissance n'est pas, vous savez, il y a des gens qui disent « moi, si je pouvais refaire ma vie ». C'est triste des fois d'entendre des personnes à un certain âge, d'ailleurs assez jeunes comme très avancées, « ah, si je pouvais refaire ma vie, si je pouvais avoir un changement dans ma vie ». Alors il y a ceux qui rêvent à un changement social, il faut réformer la société. Che Guevara disait, un révolutionnaire, « si ma révolution n'a pas pour but de changer l'homme, elle ne m'intéresse pas ». Il y a des idéalistes qui ont toujours pensé qu'un changement de société allait réformer l'homme et le rendre tellement bon et extraordinaire que la justice se rétablit sur la terre. Nous sommes encore en train de rechercher l'idéal de société parce qu'il n'existe pas à cause de l'homme lui-même qui teinte de l'injustice qu'il est et qu'il représente dans ce monde. Il y a des gens qui pensent à moi, je voudrais un changement physique, je voudrais être une autre personne. D'autres qui disent, moi, j'aurais dû changer de religion. Mais vous savez, si vous prenez la liste des religions, il y en a 2 ou 3 000, ça risque d'être long d'essayer toutes les religions. Je me souviens une fois être allé en Suisse dans une conférence, une convention, et j'ai rencontré une dame qui a témoigné, qui a dit ceci, j'ai été baptisé catholique à l'âge de, bon, je sais pas, quelques jours. Bon, elle n'avait pas demandé. Mais après, elle a dit, j'ai été baptisé mormon. Les mormons sont venus chez moi. Ils m'ont convaincu que je vais être baptisé mormon. Alors, j'ai été baptisé mormon. Puis, les témoins de Jéhovah sont venus. Et là, ils m'ont convaincu que voilà, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai suivi les témoins de Jéhovah et j'ai été baptisé témoin de Jéhovah. Et maintenant, elle a dit, ben, enfin, j'ai rencontré Jésus-Christ Et là, j'ai été baptisé, mais dans le nom de Jésus-Christ, parce que maintenant, j'ai découvert un sauveur, une relation personnelle avec lui, et j'aime mon Seigneur, et je n'ai plus besoin d'aller chercher dans mille et une églises, mille et une religions, parce que j'avais besoin du Seigneur. Vous savez, l'homme n'a pas besoin d'une religion, il a besoin d'une relation. Il n'y a aucune religion au monde qui sauve, qui apporte la paix. Le vrai changement intérieur dont l'homme a besoin, c'est de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent, eh bien voilà, il faut un changement de morale si la société se purifiait, si les mœurs étaient transformées, et c'est bien cela. Mais toute tentative dans ce domaine, malheureusement, malgré les plus grands moralistes, n'ont jamais vraiment changé le cœur de l'homme. Comment un homme pourrait-il changer la couleur de sa peau, dit la Bible? L'homme a tellement envie de transformer qu'il peut essayer de transformer son environnement, il peut essayer de se transformer dans toutes sortes de choses, mais le cœur de l'homme, au plus profond de lui, l'intrinsèque de l'homme, il n'est pas capable de le changer, de le modifier. Et puis il y a ceux qui pensent à la réincarnation, ceux qui pensent à un changement intellectuel, une nouvelle philosophie. Alors les philosophes, il y a des philosophes qui sont passés au travers des siècles, des années, qui redisent souvent à peu près les mêmes choses, de plus en plus compliquées et de plus en plus confus. Et finalement, est-ce que la philosophie, l'amour de la sagesse apporte vraiment une solution à l'homme? Sinon, eh bien, on lirait tous les livres des philosophes qui ont existé et on serait transformé. Tout cela n'est pas encore la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose que Dieu demande à l'homme pour entrer au ciel. C'est donc incontournable parce que c'est le plan de Dieu. Savez-vous quoi? Dieu a un plan pour votre vie. Il vous a créé, ce n'est pas un hasard. Il vous connaît. La Bible dit qu'il connaît jusqu'au nombre de vos cheveux. Il sait quand vous vous levez, quand vous vous couchez. Il sait même quand vous êtes de bonne humeur et de mauvaise humeur. Il sait même avant que vous parliez ce que vous allez dire. Il connaît même vos pensées les plus intimes et profondes. Il connaît tout. Il est souverain parce que vous êtes sa créature. Et nous avons été créés par Dieu les uns les autres. Ainsi, la vie spirituelle vient d'en haut. Nous ne pouvons pas fabriquer la vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui même vont aller, j'allais dire, dans des monastères ou se réfugier dans des couvents ou aller faire des retraites ou aller jusqu'au fond du monde, quelque part, au Tibet, pour essayer de découvrir une vie qui les transforme. Et souvent, ils reviennent avec certaines expériences, mais pas toujours, pas encore transformés comme ils voudraient. Pourquoi l'homme doit-il naître de nouveau? Avant de parler plus loin de la nouvelle naissance, nous allons devoir regarder un petit peu pourquoi l'homme doit-il naître de nouveau. L'homme doit naître de nouveau parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui l'a dit ici, ce qui est né de la chair est chair. La chair, c'est le principe du moi. C'est le principe du moi qui gouverne, qui règne dans la vie d'une personne, mais aussi qui provoque des choses, qui a des œuvres. Alors, je vous lis un ou deux passages, si vous me permettez, à haute voix, en Romains chapitre 8, versets 5 à 8, c'est dans la Bible toujours, il dit ceci, l'apôtre Paul, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne le soumet pas à la loi de Dieu, ou qu'elle ne le peut même pas. Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le principe de la chair, c'est comme le principe de la loi de la pesanteur. C'est la loi du péché en nous. Nous regrettons ce que nous avons dit, pensé ou fait. Nous regrettons, mais nous ne sommes pas capables de nous changer. Comme Paul disait à un moment donné, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux. Il y a une puissance en nous qui est plus forte que la meilleure des volontés. C'est le péché. D'ailleurs, j'aimerais vous l'illustrer, ça me vient à l'esprit comme ceci. Vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui fume. Oui? Et par gentillesse ou par encouragement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le tabac fait du mal au corps. Alors, s'il y a quelqu'un qui fume, Je ne le juge pas moi-même, j'ai été fumeur. Mais un jour, j'ai compris que le tabac, notamment, ben, diminuait les performances sportives que je voulais faire. Mais quand on me disait, Michel, il faut arrêter de fumer, ça me donnait plutôt envie d'aller chercher une cigarette. Vous savez, la loi de l'homme est telle qu'il suffit de dire, ne faites pas ci, pour juste avoir envie de faire exactement l'inverse. C'est incroyable comme dans l'esprit de l'homme, il y a un esprit de rébellion. Je me souviens quand j'étais à l'école d'architecture ici à Toulouse, il y avait quelqu'un, ça commençait, l'anarchisme, il s'était écrit en gros sur un mur. C'était l'époque où les étudiants, je ne sais pas si ça continue encore, mais enfin c'est dommage un petit peu pour les murs qui étaient flambant neufs. C'était écrit, il est interdit d'interdire. Alors on ne peut rien dire dans ce cas-là. Vous avez connu ça, vous? Il est interdit d'interdire. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Comme si l'homme cherche la liberté. Mais déjà, cette liberté, elle a une interdiction. Il est interdit d'interdire. Vous savez, c'est compliqué la vie. C'est compliqué le cœur de l'homme. D'ailleurs, la Bible dit, et là, c'est un diagnostic qui ne nous fait pas plaisir. Parce que nous nous voyons dans la Bible comme dans un miroir. Et la Bible dit exactement qui nous sommes. Alors voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que produit le moi dans chacune de nos vies. Et qui est très capable de le faire. Or, les œuvres de la chair, donc du moi, du péché, sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Vous n'êtes jamais disputé avec quelqu'un? Vous n'avez jamais été jaloux de quelqu'un? Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit naître de nouveau? Parce que notre chair ne peut pas se transformer par elle-même. Il faut qu'il y ait un chirurgien divin qui vienne opérer en nous cette transformation par une nouvelle vie. Jésus-Christ est cette vie, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et Jésus-Christ s'offre à vous. Il se tient à la porte de votre cœur et dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. » La vie doit venir d'en haut. L'homme, voyez-vous, il est esclave quelque part de son péché. Il est par nature, d'ailleurs, mort dans ses péchés. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais il a besoin vraiment d'une résurrection dans son esprit. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il semble que l'homme qui désire être transformé, il fait face un manque de volonté ou d'effort constant qui pourrait le transformer. Il manque de puissance et aussi, tout d'un coup, il découvre qu'en lui, il y a peut-être une puissance qui est plus forte que lui. Il y a combien de gens, et on n'est pas loin du premier de l'an, qui prennent des résolutions à cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ça dure quelques jours, quelques heures, peut-être quelques semaines, et puis c'est oublié. C'est oublié. Nous avons besoin d'une puissance plus forte que celle souvent qui nous habite. Et qu'est-ce que dit la Bible ici? Que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est comme une marionnette. Il y a quelqu'un qui, quelque part, nous dirige, un esprit malin. La Bible l'appelle le diable. Et ce diable a une puissance sur l'homme tant que l'homme n'est pas régénéré, tant qu'il n'est pas protégé. Et qui n'est pas réfugié en Christ, eh bien, il est comme esclave malgré lui-même, il est comme dirigé malgré lui-même, il fait des choses malgré lui-même qu'il regrette. Vous savez, l'histoire de la petite fille qui est pas vraiment heureuse avec sa maman et qui crie dans la maison, c'est pas bien ça, hein? C'est pas quoi, faut pas laisser faire ça. Mais puis elle rentre dans le placard, puis là, elle prend toutes les belles affaires, les belles robes de sa maman, elle les met à terre. Ça, c'est vraiment la révolte. Puis, sa maman lui dit, « Mais pourquoi tu fais ça ?» Elle dit, « Écoute, je suis en colère. »« Oui, mais regarde tout le placard. »« Ah, ça, c'est le diable qui m'a dit de faire ça. » Bon, c'est peut-être une bonne excuse. Mais, quelque part, la colère peut donner accès au diable. Il y a bien des péchés dans la vie de l'homme. Et quand quelqu'un se repent pour venir à Dieu, il doit confesser cela. Parce que c'est un obstacle devant Dieu. Il y a bien des péchés qui donne accès au diable. Mais la bonne nouvelle, malgré ce fait que ce péché nous voile la face de Dieu et son salut, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu peut entrer dans votre vie. La Bible dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même, mais par contre, le Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, peut entrer en vous. Et on vient à ce sujet, comment... je suis en retard, là. Voilà. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Excusez ce petit problème technique. L'eau symbolise la parole. Les gens disent que ça, c'est l'eau de la naissance physique. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible ici. Quand on regarde bien le passage, un homme doit naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu et de l'esprit. Il faut naître de la parole de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, qui est Jésus-Christ d'ailleurs, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Un homme né de nouveau, c'est celui qui croit à la parole. La Bible dit en Pierre que c'est une parole qui régénère. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de foi sans s'appuyer sur ce livre. Il y a bien des livres religieux dans ce monde, mais ça, la Bible dit d'elle-même, et elle se prouve par elle-même, qu'elle est la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite au travers des siècles, à une unité extraordinaire, avec des auteurs différents, mais avec un seul message, l'amour de Dieu, l'appel à la repentance, afin que les hommes et les femmes se détournent du péché, du malin, de leur propre chair, et découvrent le salut en Jésus-Christ, découvrent le paradis perdu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit, il a dit, il vous convaincra de péché. Il convaincra le monde de péché. Il convaincra de justice. Vous savez, quelque part, dans l'homme, il y a quand même une interrogation. Comment se fait-il que ce Jésus, qui est né, qui a vécu, qui a fait des miracles, qui a apporté la paix, qui a le soulagement, qui a délivré des hommes et des femmes de démons, qui a guéri des malades, comment se fait-il qu'on l'ait crucifié? Et un jour, Dieu nous parle dans notre cœur, et peut-être c'est votre cas ce matin, Dieu nous fait regarder à la croix et nous dit, mais pourquoi il est crucifié? Qui l'a crucifié? Et quelque part, on est convaincu de justice, parce que c'est injuste que le Christ soit crucifié. Et tout d'un coup, on se sent coupable, parce que c'est mon péché qui l'a crucifié. Nous étions là, on n'était pas là il y a 2000 ans, mais on était là. Et peut-être on aurait été comme la foule d'Israël en train de crier « Crucifie-le !» Cette même foule qui avait bénéficié de l'amour de Jésus-Christ, de son pardon, de sa grâce, de sa bonté, de ses miracles, de son enseignement, qui avait fait connaître Dieu le Père. Cette même foule a crié à un moment donné « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et c'est notre péché qui l'a crucifié. Nous devons avoir honte parce que notre condition de pécheur est telle que même je dirais que si Jésus-Christ revenait, peut-être dans un autre temps, une autre culture, il serait également assassiné. C'est le plus grand des péchés. Nous avons assassiné le Fils de Dieu. Dieu fait homme alors qu'il était venu nous parler de Dieu le Père. Nous sommes coupables et responsables. C'est nos péchés qui l'ont crucifié. L'Esprit de Dieu nous en convainc. Et ce même Esprit nous dit, viens, tu as soif de Dieu. Tu as soif de découverte spirituelle. Viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La condition, c'est la foi. C'est la foi. Mais j'aimerais faire une remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi. On appuie sur un bouton, l'image apparaît à la télévision. Voyons voir, quels sont ceux parmi nous qui comprennent comment se fait-il qu'on appuie sur un bouton de télévision et que par cette boîte, branchée au courant électrique, nous avons des programmes les uns après les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'est la télévision? Peut-être certains. Il y a tellement d'autres choses qu'on croit et qu'on utilise sans comprendre et sans savoir. Vous savez, l'homme veut tout savoir, tout comprendre, il veut tout contrôler. Et pourtant, il y a bien des choses dans la vie qui sont hors de notre contrôle, complètement hors de notre contrôle. Et nous faisons confiance à bien des gens et bien des situations. Il y a parfois des limites, c'est vrai, on peut être déçu, mais avec Dieu, jamais. C'est la foi. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu par la foi et nous appuyer sur cette parole. Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Par l'Esprit de Dieu. Il est celui qui applique la parole à nos cœurs, nous convainc de péché et régénère l'âme de celui qui croit. C'est ce que dit Jésus en Jean chapitre 16. Par la foi, c'est ce que nous devons devoir, en croyant en Christ comme sauveur, l'accepter. Qui doit naître de nouveau ? Eh bien, c'est l'homme religieux, comme Nicodème, et puis la Samaritaine qui est venue. Vous savez, Nicodème, lui, il est allé vers Jésus. La Samaritaine, est-ce qu'elle est allée vers Jésus ? Non. C'est Jésus qui est allé vers la Samaritaine. Alors peut-être parmi nous, il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, puis ils vont aller vers Jésus. Ou c'est Jésus qui va aller vers eux. Mais sachez une chose, c'est que chacun de nous, nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il y a l'homme instruit, comme l'apôtre Paul, des hommes dépravés, comme le brigand sur la croix. En fait, tous et chacun, nous avons besoin de naître de nouveau, parce que la Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà péché dans votre vie ? La Bible dit « pour les lâches, les incrédules, les abominables et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre ». Avez-vous déjà fait un mensonge dans votre vie ? On devrait dire autrement, je ne veux pas vous faire lever la main quand même, mais y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais dit un mensonge ? On va le dire autrement, hein ? On sourit là, parce que ça soulage un petit peu, parce qu'on est tous dans la même barque. Hein ? Tout le monde a fait un mensonge. On dit qu'il y a des petits mensonges, des fiefs mensonges, des grands mensonges, mais le mensonge, c'est le mensonge, c'est du péché. Le péché, c'est l'idée de rater la volonté de Dieu. Le mot grec, ça signifie rater la cible. C'est rater la volonté, la pensée de Dieu. Ne pas faire ce qu'il veut, ne pas faire ce qu'il attend. Mais on est tous des pécheurs parce qu'on est tellement souvent en dehors de la volonté de Dieu, ou par ignorance, incompréhension, ou par mauvaise volonté. Ainsi, on doit tous naître de nouveau. L'homme religieux, l'homme instruit, l'homme dépravé, en fait, tous et chacun, on a besoin de naître de nouveau parce qu'on est privé de la gloire de Dieu, ce qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Quand doit-on naître de nouveau ? Eh bien, la Bible dit que c'est maintenant. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a ceux qui disent « Oh, ben écoutez, je le ferai plus tard. Je suis trop jeune. » Ou maintenant, ben, j'ai tellement de choses à faire. Et puis on entend des personnes âgées, bah, écoutez, c'est trop tard, maintenant j'ai vieilli, pensez que vous allez me faire changer de religion. Mais la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Dieu vous parle par ce message de la parole qui vient de Dieu, cette parole qui est de Dieu, eh bien n'hésitez pas, allez vers lui, parce que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Moi, j'ai eu la peine de perdre ma maman quand j'étais jeune, j'étais étudiant. À l'âge de 19 ans, j'ai dû apprendre un soir, alors que je rentrais dans la soirée chez moi, avec un mot, voilà, téléphone à la maison, il est arrivé un accident grave à ta maman. Et puis, j'ai téléphoné et j'ai compris qu'elle était décédée. On ne sait pas ni le jour ni l'heure quand Dieu va nous rappeler à lui. On ne sait pas nos chers et bien-aimés les plus proches le jour où ils vont être repris. On ne peut pas contrôler bien des choses. Il y a un jeune homme un jour qui a entendu un message, le message de l'Évangile, ce message de la nouvelle naissance. Et le prédicateur a fait un appel, il a dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut ». Il est parti en disant « Je vais y penser, je vais réfléchir ». Il est rentré chez lui. Et il avait une mobilette, donc il a foncé dans le jardin comme d'habitude. Et la maman avait l'habitude d'étendre du linge sur un fil, mais elle enlevait toujours le fil quand le linge n'était pas étendu. Et il est rentré, il faisait nuit, et puis il n'a pas vu de linge. Donc il a pensé que voilà, il pouvait rentrer à vive allure dans le jardin et mettre sa mobilette de côté et rentrer chez lui. Sauf que ce soir-là, par inadvertance, sa maman n'avait pas enlevé le fil. Il s'est trouvé que le jeune homme a été étranglé sous la vitesse du choc. Il a perdu la vie. C'est une histoire véritable. Alors, pas de manipulation de la part de Dieu, pas de chantage, mais c'est une réalité que tôt ou tard, on doit répondre à l'appel de Dieu. C'est aujourd'hui. Voici maintenant le jour du salut. Voici le jour favorable. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il y a donc un avertissement de ne pas retarder quelque part l'appel de Dieu. Les résultats de nouvelle naissance, on va peut-être écouter un petit peu, mais la bonne nouvelle, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que quand on est né de nouveau, on goûte à la présence de Dieu. Pour la première fois, on est rempli de son amour et on commence à aimer tout le monde. Même ceux qui nous ont fait du mal. La Bible dit qu'on est immergé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Il y a une transformation de vie telle qu'on dit, mais c'est incroyable. Et les gens autour de nous, même sans qu'on le réalise, disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as donc bien changé. On raconte l'histoire d'un homme qui, dans un village, un forgeron du temps de... Un grand prédicateur, un revivaliste, s'était converti, mais on pensait vraiment que c'était le dernier du village qui allait se convertir, c'était un blasphémateur, et les gens le craignaient. Puis il arrive dans une réunion, il entend un message comme cela, et puis il se convertit. Et puis il est transformé par Dieu. Puis les gens du village disaient, vous avez vu comment Dieu l'a transformé? Même son cheval s'en est aperçu. Eh oui, c'est une vraie histoire. Dieu nous transforme, Dieu nous transforme. C'est merveilleux. Alors ici, il pourrait y avoir bien des gens qui se lèvent et qui viennent expliquer comment Dieu les a transformés. C'est merveilleux. Tout d'un coup, on aime ce qu'on haïssait, on hait ce qu'on aimait, on n'est plus les mêmes, on n'a plus les mêmes appétits, j'allais dire, les mêmes désirs, les mêmes regards, parce qu'on a le regard de Christ et on vit pour l'éternité. Vous savez, on n'a qu'une seule vie à vivre. Est-ce que nous allons la vivre vraiment pour l'éternité? Alors, il y a de nombreux résultats. Il y a une nouvelle vie. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Avoir la vie éternelle. Vous vous souvenez, le jeune homme riche, quand il est venu vers Jésus, il est parti tout triste parce que le Seigneur a dit, va, vends tout tes biens, puis suis-moi. Il n'a pas compris que la vie éternelle, la réponse à Christ de le suivre, ça vaut toutes les richesses du monde. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Il est contre le fait que la richesse prenne plus de place que le salut, que la religion prenne plus de place que le salut, etc. Vous avez compris. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui est en Christ. On est une nouvelle création. Notre frère Étienne l'a mentionné ce matin. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, je voudrais l'illustrer, j'ai trouvé ça sur Internet, excusez, mais vous connaissez certainement le processus de la chrysalide. C'est une illustration, n'est-ce pas? Alors la chenille, ben, elle est chenille, elle rampe. Je ne sais pas si c'est marrant d'être chenille, en fait, d'être toujours à terre, quelque part, peut-être sur quelques feuilles. Mais un jour, elle se fixe avec un fil et puis elle perd une partie de son être et elle-même, après, elle se transforme et elle donne naissance à un nouveau corps qui, par la suite, après à peu près une demi-heure, une heure, devient un magnifique papillon. Mais moi, j'aime bien prendre cette illustration de la nature. Dieu l'a fait cela. Voilà, une chenille qui est transformée. Alors, c'est ce que Dieu va faire. Rassurez-vous, Dieu ne va pas vous transformer en papillon, hein. Mais ce n'est pas physiquement, quoique le sourire apparaît après qu'il y ait la conversion, je pense. Mais Dieu nous transforme intérieurement. Le papillon est libre, hein. Moi, j'aime bien cette image, parce que ça illustre la liberté et la nouvelle naissance. Le jour où on a accepté le Christ, on devient libre. Libre de son péché, d'esclave du péché. Ah oui, c'est vrai, on devient serviteur de Christ, esclave de Christ. On aime le Seigneur. Il nous a rendus libres. On a d'autres on fait ça de bonne heure ce matin, mais porter un nouveau nom, on est appelé enfant de Dieu, c'est, on va juste dire un mot là-dessus, mais vous savez, il y a combien de gens sur cette terre qui souffrent de n'avoir pas eu des parents tels qu'ils auraient dû être, du manque d'amour. Et le jour où ils découvrent Dieu, ils découvrent qu'ils deviennent son enfant, que Dieu est un père qui prend soin d'eux. Il n'y a pas d'éducation abusive avec Dieu, il n'y a pas d'éducation manipulatrice, il n'y a pas de dépendance émotionnelle, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas d'amour conditionnel, si tu fais ça alors je t'aimerai, Dieu est amour. Et la première chose qu'il veut révéler à son enfant qui naît de nouveau, voilà, je t'aime d'un amour éternel et j'ai des plans pour toi. Il suffit juste de le croire. On a un cantique nouveau dans le cœur, on est appelé enfant de Dieu. Et voilà, j'ai marqué ça. Une nouvelle ambition, plaire à Dieu. Avant, on essaie de plaire aux hommes. Maintenant, on cherche à plaire à Dieu. Une nouvelle adoration, on adore Dieu en esprit et en vérité. Une nouvelle espérance. Et on est en fait appelé à être rempli du Saint-Esprit, à connaître le fruit de l'Esprit et à vivre de l'Esprit. Alors, pour conclure ici, simplement, la question du départ, c'était... le point de départ, c'est qu'il faut naître de nouveau, mais... Est-ce que vous êtes né de nouveau? Et si ce n'est pas le cas, voulez-vous naître de nouveau? J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a toujours un passage, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir quand je commençais à lire la Bible et qui m'a exhorté à me donner au Seigneur. C'est Dieu qui parle, c'est vrai qu'il parle à Israël, mais il dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin... que tu vives, et voilà, j'ai mal écrit, choisis la fin afin que tu vives, toi et ta postérité, afin que tu vives. Avez-vous cette vie d'en haut? Le Seigneur vous appelle à naître de nouveau. C'est le choix entre la mort et la vie. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus a dit ceci en Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La réponse du Seigneur ce matin à notre besoin d'être transformé, c'est ceci. Jésus répondit à Nicodème, ce chef pourtant si religieux, mais qui était passé à côté d'une vérité si importante, une vérité spirituelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, tu as placé devant nous ce texte de Nicodème, qui était un chef religieux, mais qui pourtant ne connaissait pas la porte du ciel. Et tu as dit, Seigneur, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie, Père, humblement ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore dans ta bergerie, dans le sens d'être en route pour le ciel, de te connaître, je prie, Père, à l'instant, de parler à son cœur. Je te prie, Père, d'agir. Et je te demande, Seigneur, que cette personne puisse prier dans son cœur et dire « Oui, Seigneur Jésus, sauve-moi, régénère-moi, je veux naître de nouveau. » Si dans votre cœur ce matin, pendant que nos têtes sont... baissez, nos yeux sont fermés. Si dans votre cœur, vous avez ce désir de faire appel à Jésus-Christ, dites-le lui, maintenant, sans plus tarder. Dites au Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi ta vie. Père éternel, merci de ta présence parmi nous. Merci de ta parole qui est une lumière sur notre sentier. À toi seul la gloire. au siècle des siècles. Amen.